Eh ben voilà, je voulais juste vous souhaiter bonnes vacances, tout ça, faire un joli message un peu rigolo ou je sais pas quoi, quelque chose qui donne un peu d'espoir. Et puis voilà, j'ai bêtement allumé mon ordinateur et j'ai appris la mort de François-Xavier Verchal. Je suis un peu perturbé. Ça me fait chier parce que j'ai des gens comme ça, il y en a besoin et il y a des miasmes dans les dossiers, surtout quand ils sont noirs. À la longue, ça peut devenir cancérigène. François-Xavier Verchave en a trop respiré sans masque, sans doute. Ça va être dur de trouver du monde pour aller autant à ce charbon.
On ne peut pas ne pas mener ce combat et on s'aperçoit que progressivement, on retrouve autour de ce combat de plus en plus de gens.
La France-Afrique, François-Xavier Verchave, la France-Afrique.
Personnellement, ce qui me motive depuis une quarantaine d'années, c'est le refus de l'extrême misère dans le monde, de la faim dans le monde. C'est pour ça que j'ai étudié, que je me suis battu et que j'ai adhéré en 1984 à la campagne survie lancée par 126 prix Nobel qui disait que ces questions de faim et d'extrême pauvreté n'étaient pas de l'ordre caritatif, de l'ordre humanitaire, mais relevaient de décisions politiques. Et on s'est rendu compte progressivement que derrière la coopération, derrière la relation franco-africaine, cette soi-disant générosité, il y avait une corruption gigantesque, une criminalité économique incroyable, et avec la complicité française lors du génocide au Rwanda, on s'est rendu compte aussi que cette criminalité économique se doublait d'une criminalité politique invraisemblable, hallucinante. Et donc, les Africains se sont reconnus dans les analyses que nous avons faites longuement, et d'autre part, de plus en plus d'associations françaises, même au départ qui étaient réticentes, se rendent compte que nous avons raison et rejoignent notre combat, par exemple, contre les dictatures en Afrique.
Voilà la voix de François-Xavier Verchave qui est décédé. Ça nous fera beaucoup à la Bastille, j'y suis, et beaucoup de ceux qui ont aimé et écouté cet homme remarquable que fut François-Xavier Verchave ne sont pas prêts de l'oublier, ni des choses qu'il disait, comme par exemple donner valeur de loi au devoir de sauver les vivants. Je fais partie de ceux qui n'oublieront pas quelles étaient les raisons de ce combat. Il aimait raconter que comment, à un âge déjà avancé de sa vie, il avait découvert l'existence de la Shoah. Il avait fallu des années pour qu'il découvre ça, c'était les hasards de son existence, et il disait comment il avait simultanément reçu à la fois la mauvaise nouvelle et l'intuition des conditions de son renouvellement, c'est-à-dire la chape de silence, les ruses infinies de l'esquive et de l'indifférence, le réseau des petites et grandes lâchetés. Et cette découverte de la Shoah avait, tardive, comme il aimait le répéter, avait été la base et le moteur, on peut dire, de son combat d'homme engagé et érudit aussi, notamment à travers ce mot qu'il avait inventé de la France-Afrique, le plus long scandale de la République. Donc, c'est, si vous voulez en savoir plus sur lui, sur son œuvre, et puis sur ce qui, les cérémonies, les célébrations, ce qui sera fait à la mémoire de François-Xavier Verchave, je vous conseille d'aller sur le site Survie. C'était l'association dont il s'occupait, www.survie-france.org, où vous aurez des précisions. Voilà, on commence par cet hommage. Et puis, une autre chose tout à fait différente, c'est ce qui est en train de devenir une affaire, c'est ce qui se passe autour de notre ami Edgar Morin. Il y a une campagne qu'on peut qualifier de sale. J'aime pas employer ce mot trop souvent, mais là c'est vraiment une campagne sale qui autour d'Edgar Morin, suite à un procès qu'il a perdu. Il y a une campagne qui dépasse largement le jugement. Donc pour en savoir plus et pour comprendre ce qui se passe, vous pouvez aller sur le site libération.fr, où vous pourrez lire le texte d'un témoignage de solidarité avec Edgar Morin que je signe et que nous signons. Voilà. Aujourd'hui, en deuxième partie de la, j'allais dire balade. Oui, pourquoi pas. Balade à Perpignan. Après les événements que vous savez, d'autres messages auparavant sur le répondeur de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Michel de Seine-et-Marne. Je voudrais savoir si les journalistes et les gens qui donnent l'information sur France Inter ont une prime à chaque fois qu'ils prononcent le mot de Sarkozy. Parce que dis donc, ils doivent sacrément augmenter leur revenu mensuel. Hein. Voilà. Allez, à bientôt.
Bonjour. Dis donc, le nouveau joujou nucléaire là qu'on va avoir chez nous, là, on nous l'a bien vendu, hein, pas de problème, sur France Inter, d'ailleurs, et France Info en boucle, incroyable, quoi. On renferme les étoiles maintenant, et patati patata, c'est merveilleux, c'est l'avenir. Et en bonjour, hein, la puissance du lobby nucléaire, c'est incroyable, incroyable. Se rendre compte la puissance de la campagne de com', c'est monstrueux. Bon, ben voilà, je vais repartir pour un tour. Merci, au revoir, c'était Fabrice de New York.
Allô, Daniel Mermet au secours, Montauban, chef lieu du Tarn-et-Garonne. On a une députée maire de droite ici qui est incapable de gérer sainement les finances. Alors, pour essayer de faire bonne figure, elle vend le patrimoine immobilier de la ville aux affairistes qui sont bien sûr aux aguets. Alors, demain, à 17h45, il va y avoir un conseil municipal où elle se fera voter le feu vert pour la vente d'un magnifique hôtel 18e, qui est actuellement d'ailleurs occupé par des services du conseil général. Et elle vend cet immeuble à Leclerc, qui est déjà un empire sur la ville. Donc, les Montalbanais sont décidés à ne pas se laisser faire. Ils fondent une association, dont je donne l'intitulé et l'adresse, l'Association de défense du patrimoine de Montauban, ancien collège, 82 000, Montauban. Merci.
Le gouvernement Villepin décrète un nouveau contrat de travail qui autorise les patrons à licencier leurs employés à tout moment et sans donner de motif, et ce, pendant 2 ans. Madame Valérie Pécresse, sémillante porte-parole de l'UMP, explique sur France Inter à quel point elle trouve cette mesure géniale. Eh bien, si ça lui fait tellement envie, il faut lui appliquer ces 2 années probatoires à elle aussi, comme à tous les députés. C'est très simple. On reprend cette idée d'initiative citoyenne qui plaisait tellement aux partisans du oui au référendum. Et on l'adapte à notre Assemblée nationale. Disons que, dans les 2 ans qui suivent l'élection, si 10% des électeurs d'une circonscription demandent par pétition une remise en jeu du mandat de leur député, on organise de nouvelles élections, que ce soit au bout de 3 mois ou d'un an et demi. Rien ne serait acquis pendant 2 ans pour les députés. Ils devraient en permanence donner la preuve que leur souci premier, c'est la situation sociale, éducative, etc. de leurs concitoyens et administrés. Ils devraient rendre des comptes, quoi. Sinon, dehors. Allez, chiche, Madame Pécresse.
Du 30 juin au 4 juillet, 2500 quads s'apprêtent à déferler sur Valoire et dans ses alpages. La Transval Quad et le Salon mondial du Quad hâte la diffusion des engins de loisirs motorisés sur tout le territoire et la marchandisation de la montagne est en marche. Si vous refusez de vous en accommoder, cet appel de nos amis valoirains est pour vous. Rendez-vous le dimanche 3 juillet à 9h au col du Télégraphe en aval de Valoire. 3 juillet à 9h au col du Télégraphe en aval de Valoire. Voilà, alors un numéro 04 76 01 89 08. Je répète, c'est celui de Mountain Wilderness France, 04 76 01 89 08. Allez, Harvey, Daniel, et là-bas, nous y serons. Bonsoir.
Salut Daniel, Frédéric de Toulouse. Bon, je te remercie de rétablir la vérité par ton reportage sur Perpignan et le quartier Saint-Jacques. Moi, je suis assistant social à Toulouse maintenant et j'ai travaillé 9 ans dans un centre de soins toxicomanes à Perpignan de 90 à 99 avec les habitants gitans, maghrébins et français de souche comme on dit. Nous avons mené une action sociale communautaire sur le quartier Saint-Jacques en direction du public toxicomane et de leurs familles. Moi, je ne nie pas qu'il y ait des problèmes économiques, sociaux, culturels et sanitaires sur ce quartier, mais j'ai rencontré des gens formidables et trouvé un quartier vivant comme on en aimerait un peu partout. Bien sûr, il est difficile de le montrer à la radio, mais tu restitues bien la spontanéité et la gentillesse des habitants de ce quartier, de ce centre-ville historique. Ce quartier devient un enjeu politique énorme en période électorale et préélectorale. Mais en agissant ainsi, nos politiques, que ce soit sur le plan local, le maire, le conseiller général, ou sur le plan national, notre cher ministre de l'Intérieur, jouent avec la démocratie. Ils se jouent de nous, les démocrates. En colportant de fausses informations, les journalistes attisent les idées les plus noires, sans se soucier réellement des populations dont ils se servent pour vendre leurs événements et du sensationnel. Continue à aiguiser notre esprit critique pour que continue à se développer notre conscience politique, nécessaire à l'exercice de notre citoyenneté. En réponse à ceux qui te taxent de démagogue, je remercie toute ton équipe avec qui tu effectues une véritable action d'éducation populaire. L'humanisme reste le meilleur rempart au racisme, au populisme et au fascisme. Allez, salut, merci à tous. Frédéric de Toulouse, ciao.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Olivia Gesbert, la fête de la musique à Perpignan.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà. Alors là, on est place Cassagne.
Place Cassagne.
Cassagne. Ouais.
Et c'est là, exactement là où on se trouve, où ont commencé les affrontements entre les CRS et les jeunes maghrébins le soir du deuxième meurtre, le 29 mai. Alors ici, le marché Cassagne, c'est la plaque tectonique du quartier. Ici, il y a tout le monde. Quand il y a commerce, c'est les maghrébins qui le tiennent. Mais tout le monde vient ici. C'est le marché du département. Et le dimanche, il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent sur cette place.
C'est une belle grande place avec des platanes, des beaux vieux immeubles.
Inch'Allah.
Mais c'est bien vite ce soir. Hein. Il est quelle heure? Il est 9h30, même pas 10h. Soir de la fête de la musique, et c'est le désert à part, quoi. Un escadron de CRS, de gendarmes.
Petit escadron, petit détachement de gendarmes mobiles, ouais. Avec un véhicule militaire. Je trouve que du point de vue psychologique, c'est assez brutal de mettre une Jeep kaki, hein. Ça renforce ce côté guerre civile qu'on a tellement évoqué.
Il y a juste un pauvre chien qui s'aventure.
Au péril de sa vie.
Oui. Alors là, on est dans la fameuse rue Lucia.
Lucia. Rue Lucia qui, traditionnellement, est un peu la frontière entre les deux communautés. On va passer une guitare, mais elle est muette. Chazi, c'est là. C'est ce commerce qui a été entièrement européen en vert. C'est là que le jeune Bachir est allé se réfugier. C'est là qu'il a été fini.
Là,
quoi.
Là.
Là. Au gars, il est mort pratiquement dans ses bras, si on peut schématiser comme ça. Je crois qu'il n'avait qu'un traumatisme majeur. Quand même.
Elle est belle, là, ta chanson. Hein. Ouais. Elle parle de quoi?
Je sais pas, je connais le mot, tu vois, en prononçant. Je prononce les mots, mais je sais pas ce que tu dis. C'est espagnol.
Ah, tu connais pas le sens des paroles?
Non.
Elle est de qui, cette chanson, tu sais?
Elle s'appelle déjà... Tana, c'est... Vas-y, registre-moi.
Ce sera presque tout pour la fête de la musique ce jour-là à Perpignan. Perpignan, maintenant, on sait ce qui s'est passé à Perpignan. Ghetto contre ghetto, clan contre clan, les Arabes contre les gitans contre les Arabes. Avec Olivia Gesbert, on a eu envie de revenir un peu plus tard. dans cette ville, dans ces quartiers, comme le disait à l'instant notre ami Georges Bartoli, qui est natif natal de là, mais qui lui est catalan. Donc ça, c'est l'autre catégorie. Et où on ne sait pas ce qu'on doit dire, si on doit dire communauté, si on doit dire les gitans, les arabes, les catalans, ou bien les Français d'origine gitane, les Français d'origine arabe ou maghrébin, et les Français, tout ça c'est un peu long. Alors voilà, dans le coin, on s'appelle comme ça, on s'appelle, il y a les Catalans, il y a les Gitans, il y a les Arabes. Mais la question évidemment, elle est celle de la communauté et du communautarisme. Jusqu'où va la communauté, où commence le communautarisme? Et puis, il y a évidemment eu une lecture de ces événements qui a été une lecture ethnique. Quand on dit ghetto contre ghetto, quand on dit clan contre clan, surtout, on veut une lecture ethnique, on projette une lecture ethnique. Et on a vu hier avec Jean-Louis Olive, qui est sociologue et ethnologue, dans la première partie de ce reportage, et pas seulement avec l'ethnologue et le sociologue, mais avec et avant tout avec les habitants, que c'est loin d'être ça, la lecture ethnique, qui définit ce qui s'est passé là, qui définit ce à quoi ce qui s'est passé là renvoie, c'est-à-dire des réalités, un certain nombre de réalités, de difficultés, de très très grandes difficultés sociales, que ces deux communautés connaissent depuis longtemps, auxquelles elles sont affrontées. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va continuer de se balader avec Olivia dans ces quartiers, avec des rencontres, avec notamment Aziz, dont Georges vient de nous parler, chez qui les choses se sont, le premier drame a eu lieu, où il a été fini, comme dit Georges, où ce jeune garçon a été fini. Et on verra qui est Aziz et comment Aziz, qui tient ce bistrot, Aziz est arabe, entre guillemets, et sa femme est gitane. C'est avec ce couple et ces images que nous commençons la balade d'aujourd'hui dans la Bassi Jiskui jusqu'à 18h.
Et Aziz, il apparaît ouvert, hein?
Okay. Si,
Aziz.
Si,
aujourd'hui?
Aziz, oui. Aujourd'hui, non, il a peut-être ouvert.
Je n'ai pas vu, je vais aller voir.
C'est là où il est mort, la fille.
Aziz, il n'est pas ouvert?
Oui, c'est ouvert.
Monsieur Aziz, bonjour.
Bonjour.
Hier, je t'ai cherché partout et en fait, le restaurant était fermé. Tu es fermé le mercredi, c'est ça?
Oui, j'ai fermé le mercredi, mais comme ça ne marche pas ce moment et tout ça, on n'arrête pas de fermer, ouvrir, parce qu'il n'y a pas de travail.
Il faut qu'on raconte l'histoire en quelques mots. C'est quand même dans ton bar, dans ton café, que le drame est arrivé, que Mohamed est mort ici, Mohamed Bek Bachir.
Oui, Mohamed, ça n'a pas commencé chez moi.
Voilà, on est chez Aziz. Son bistrot, son café s'appelle Jama El Fana et c'est dans la rue Lucia, c'est-à-dire la rue, Georges vient de nous le dire, la rue qui sert de frontière entre les deux quartiers. Et c'est là, en effet, que le dimanche 22 mai, ce jeune garçon, Mohamed Bey Bachir, un jeune franco-algérien de 28 ans, a trouver la mort. Vous vous souvenez du déroulement des événements, arrestation ensuite de le 24 mai, trois gitans qui ont été mis en examen. Il faut rappeler que la mort, c'est une affaire qui n'a pas un caractère racial ni communautaire, puisque c'est une affaire de poste de radio qui aurait pu être volé, qui a dégénéré. Enfin, c'est une castagne idiote qui s'est mal terminée. Et puis il y a eu cette deuxième histoire invraisemblable, le 29, un deuxième meurtre, Driss Ghaïb, un franco-marocain de 43 ans qui est tué dans le quartier Saint-Mathieu, c'est le quartier voisin, et le meurtre n'est toujours pas élucidé, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, ça a l'air d'être une histoire passionnelle, enfin on ne sait pas très bien, mais là non plus, tout indique que l'histoire n'est pas non plus une histoire de clan contre clan ni de ghetto contre ghetto. C'est deux histoires qui n'ont rien à faire avec une opposition entre des clans. Et pourtant, c'est ainsi que la majorité des médias ont présenté les choses, clan contre clan. Et c'est ça qui fait que c'est très difficile. Ça a été assez difficile pour Olivia, il faut bien le dire, d'arriver à ce que les gens acceptent de lui parler, parce que c'est vrai qu'ils étaient assez remontés quand même contre les médias qui ont donné de leur quartier, de leur conflit, de leur vie cette image. Quand je dis conflit, c'est pas nécessairement des conflits ethniques. Ça peut être par exemple des conflits sociaux. On est avec Aziz qui nous explique.
Mohamed, ça a commencé en bas de la rue Lucia et c'était pour une histoire de poste. C'est un garçon, un petit gitan, qu'on appelle Ketchup. Lui, il a volé le poste dans cette voiture et le victime, celui-là qui est mort, il est venu, il a trouvé le garçon dans la voiture. Il a sorti de la voiture, il l'a jeté contre le mur. Il y avait deux, trois gitans qui étaient debout contre le mur. Le garçon, qu'est-ce qu'il a fait, la victime? Il a sauté son couteau et la balle a frappé un gitan. Et au moment que la balle a frappé, il y avait un autre, soi-disant, qui montait en voiture, où ça s'est interdit. Et dans sa malle, il y avait des bâtons, des matraques, etc. Et l'on suivit tout le long de la rue, en frappant, frappant, frappant. Et cherche refuge. L'autre, il a profité de rentrer chez moi. Il a foutu un coup à la tête. Un seul coup, mortel. Pas deux, pas trois, pas quatre. Ici, chez moi, un seul coup. Il n'y avait pas de coup de couteau, comme ils ont dit aux journaux, il n'y avait rien du tout parce que le type il était là. Au moment où il est tombé, je commence à crier, il est mort, il est mort, il est mort. J'essayais de fermer le rideau avec panique, jusqu'à ce que la police soit venue. C'est eux-mêmes qui, ils ont ouvert le rideau, ils ont trouvé le victime là, avec ma femme. Et voilà, la vérité c'est celle-là. Comme moi, ils ont envie de remercier moi. Comme quoi, c'est moi qui ai aidé les gitans pour tuer l'arabe, c'est moi qui ai tout fait. Parce que le journal qui a sorti le lendemain, parce que moi, ils m'ont mis en garde à vue, le deuxième journal, c'est là que les gens ils ont compris que c'est moi qui ai défendu.
Toi, on t'a poursuivi, on t'a mis en garde à vue pour non-assistance à personne
oui,
en danger.
Oui, hein. J'ai marqué dans mon garde à vue, j'ai signé le garde à vue, tout ça à la police. Hein. Ma femme, elle était choquée. Moi, j'étais frappé et je me trouve en garde à vue. Je suis commerçant, je ne suis pas un voyou.
Mais Aziz, maintenant c'est bon, ils ont reconnu que tu avais essayé de l'aider,
Mohamed. Oui, mais ils ont reconnu, mais avant... Ils m'ont fait honte avec tout le monde ici, dans le quartier. Et tous les Arabes, ils m'ont regardé à l'envers. Et personne qui venait manger chez moi, personne qui venait boire un café. Parce qu'ils disent qu'Aziz les a aidés.
Aziz, ça t'embête si on coupe le ventilateur? Je sais, il fait très très chaud, mais ça fait un bruit de dingue. On va le rallumer après, dès qu'on a l'esprit qui chauffe trop, on le remet, quoi. Ou alors tu veux qu'on se mette un peu dehors, près de la porte? Là, ça va pour toi? Aziz, est-ce qu'ils ont dit quelque chose, les agresseurs, quand ils étaient en train de taper ou de lyncher Mohamed Bey Bachir?
Oui.
Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Ils étaient en train de le traiter de sale arabe, par exemple?
Non, pas du tout, pas sale arabe, pas ça, parce qu'il n'y a pas les mots comme ça. C'était la haine. Ben, les mots, ils insultent, mais je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Voilà ce qu'ils avaient dans la bouche.
Aziz, ce drame-là, c'était le 22 mai dernier, il y a bien un mois maintenant. La semaine d'après, il y a eu un deuxième meurtre, mais qui n'avait rien à voir. Un autre règlement de compte, et on ne sait pas exactement qui est responsable. La presse a dit beaucoup de bêtises. On a dit 2-0 pour les gitans. Ça voulait dire qu'on pensait que c'était la faute des gitans encore.
Non, c'est l'amalgame de la télévision, du journal, tout ça. Ce n'est pas vrai, tout ça. Mais nous, d'ici, on le sait que ce n'est pas cela. Il n'y a rien à voir avec cette affaire de Mohamed Blanchir. Il n'y a rien à voir, mais rien à voir. Bon, l'enquête, il le dira. Parce que ce garçon, déjà, il est quand même, il avait pas mal de filles. Et voilà, et soi-disant qu'il a sorti avec une femme. Et cette femme, elle est mariée, cette femme, une autre femme qui l'a balancé son mari. Et ben voilà, c'était passé comme ça.
Alors, une affaire de poste de radio et après une affaire de cœur ou une affaire de fesses, on appelle ça comme on veut. Une affaire de cul.
Voilà, hein, oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Et ben oui, c'est...
Et qu'est-ce qu'on en fait? Les médias, après, ils disent c'est les gitans contre les arabes. C'est ça? Tu penses que c'était des crimes racistes, des meurtres racistes pour toi?
Non, pas du tout. Pas crimes racistes. Il ne faut pas employer ça, non. Moi, j'ai grandi ici, ça fait 29 ans que je suis à Perpignan. Il n'y a pas de racisme entre nous ici. Ça fait 40 ans qu'on vit ensemble ici. Parce que ce que je pense, Perpignan, il est coupé en deux. Côté bourgeois, il faut le dire, hein. Côté bourgeois, côté pauvre. Voilà, nous, on a la zone 5, eux, la zone 1. La ville et le quartier. Vous allez au soleil, et après le soleil, vous rentrez dans l'ombre. Il n'y a pas de travail ici, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Ici, on n'a pas de travail.
Je reviens à toi. T'es arrivé quand en France?
Moi, je suis arrivé en 78. Moi, je suis né au Maroc. Et aujourd'hui, je suis citoyen français.
C'est quoi tous tes tatouages?
Ah ben, c'est des conneries de la jeunesse.
Et t'as une femme sur ton torse, hein?
Ça, c'est ma femme, ça. Ma femme, elle est d'origine gitane.
Et qu'est-ce qui t'a pris d'épouser une gitane?
C'est le cœur qui parle, c'est pas moi. Comme il dit Jean-Claude Van Damme, écoutez son âme. Voilà, c'est un cousin à elle, ça, en plus. Elle porte la même nom. Toi et ma femme, vous portez la même nom.
T'es le cousin de sa femme?
Pas le cousin, mais le nom. Il peut être cousin.
C'est quoi le nom?
Jiménez.
Ah, Jiménez. C'est une des grandes familles ici, hein?
Oui, c'est une grande famille.
Et toi, tu viens manger chez Aziz?
Eh ben oui. Mais alors, oui, le... Eh ben la preuve, regardez. Voilà, il est là.
Ah, il veut manger. Mais à cause de moi. Viens, on va lui faire à manger. Qu'est-ce qu'on mange chez Aziz?
On mange des entrecôtes, on mange des brochettes, merguez.
Ben la preuve, regardez, hein. Vous êtes là, il est là, ben voilà, c'est pas de mensonge. Hein. Alors c'est pour ça qu'il faut pas écouter. Il y a la bagarre entre les gitans et les arabes, que c'est pas vrai, voilà. Il n'a pas peur que je le poisonne, il n'a pas peur... Mais c'est les gens qui font l'amalgame, c'est les gens qui font le...
Ils montrent attention à eux-mêmes. Ils montent. Au lieu de descendre, ils montent. Ils ont des bêtises.
Lui, c'est un gitan. Hein? Il est marié avec qui?
Une arabe.
Et ben voilà. Ben voilà. Sa femme, elle est magnifique, elle est jolie. Non, elle n'est pas française. D'origine arabe.
Toujours, on a vécu ensemble. Toujours. On peut pas rester sans les arabes.
Les gitans sans arabes, c'est pas un quartier. Et les arabes sans gitans, c'est pas un quartier. Moi, je me rappelle l'époque des mariages gitans. On y est invité sans être invité. On voit le flamenco là, on rentre, on se met gentil, propre, pas de manque de respect, rien du tout. Mais t'es là, t'es le bienvenu. Et tu sers à boire et tout. Il n'y a aucun problème. C'est les journaux qui font l'amalgame. C'est les journaux, comme par exemple Canal Plus. T'étais là le jour quand tu mangeais avec Jean-Luc. Ouais. La chaîne Canal Plus qui sont venus ici. Ils nous ont fait montrer où le vrai journal. Vrai journal. Qu'est-ce qu'ils ont fait montrer? Ce qu'on a dit sur Sarkozy. Mais il n'a pas montré l'image qu'eux étaient en train de manger, les Arabes qui étaient en train de manger ici, de filmer ça, de montrer ça à la télévision. Ils n'ont pas fait canal. Mais ça, moi, je voulais qu'ils le passent à la télévision. Voilà. Vous savez normal?
Non.
Bon, c'est la bande espagnole, ça, quoi?
La bande espagnole.
Alors, vous allez vous baigner dans la piscine, là?
Oui.
C'est chaud, hein?
Mais... Ah. Ah. Allez, maintenant, il faut chanter. Chante bien.
Ok, comme tu.
Chante.
C'est une chanson qu'on chante à l'église?
Oui.
Alors ce monsieur, c'est le père de qui?
C'est mes petits-enfants.
Tous?
J'en ai 10.
10?
10 petits-enfants.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 petits-enfants.
Vous leur faites la piscine?
Vous n'êtes pas passé, madame, quand il y avait la guerre ici?
Non, moi je viens quand c'est calme.
Là, les enfants s'amusent, ils sont bien, ils sont tranquilles. Hein.
C'est bien, vous trouvez que les choses évoluent ou pas pour les jeunes?
Oui, beaucoup.
Il faut s'amuser.
Ah, mon tiara. Bon.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, je dois travailler, faire des choses, madame.
Vous vous faites engueuler?
Oh oui, il faut que je travaille à la maison. Il faut que je tapisse à la maison maintenant.
Tapisse?
Oui, tapisser. La prochaine fois, on prend un autre des commentaires, madame.
Bon, merci, monsieur. Hein.
Vous mettez des choses en plus.
C'est pas vrai.
Oui, oui.
Pas nous.
On l'a vu, nous, à la télé.
Mais moi, je suis pas à la télé.
Ah. Ils disent pas la vérité. Si on dit ça, ils mettent ça. Qu'est-ce que vous êtes alors?
Moi, je suis à la radio.
À la radio. Vite.
Voilà, je suis en plein Saint-Jacques, rue Fontaine-Neuve. C'est une des rues du quartier. Et je suis juste devant l'entrée de la petite échoppe de la boutique de Alia. Alia qui est écrivain public, c'est ce qui a marqué sur le panneau. On voit des petits encriers et des plumes. Et il y a aussi marqué conseillère en formalité administrative en français et en arabe. Un peu plus haut, il y a l'amicale des travailleurs marocains. Juste à côté, il y a l'amicale des travailleurs algériens. Et voilà, c'est un quartier purement catalan avec des vieilles maisons traditionnelles. Mais les façades sont absolument magnifiques. C'est vraiment le vieux Perpignan. Et toute la vie se passe dehors ici. On se lave dehors, on se trempe les pieds, on se baigne parce qu'il fait très chaud. Et on partage sur le trottoir des moments de vie. Tu peux me dire comment tu t'appelles, ton prénom ?
Sandra.
Sandra ?
Oui.
Et t'es gitane, en fait ?
Oui.
D'accord. T'habites ici, à Saint-Jacques ?
Oui.
Ah. C'est ta fille ?
Oui.
Ça s'appelle comment ?
Talia.
Talia ?
Oui.
Et dans le ventre, t'as un autre bébé ?
Elle s'appelle Sophie.
Sophie ?
Mm.
Ah, c'est déjà une fille, tu sais déjà ?
Oui.
Elle est même pas née, t'as déjà choisi le prénom et tu sais déjà ?
Oui.
Il y a combien de mois, maintenant ?
8 mois.
8 mois ? Et t'as quel âge ?
16 ans.
16, toi, t'as 16 ans ?
Non, 18 ans.
18 ans. Et t'as déjà 2 enfants, maintenant, à 18 ans, quoi.
Mm. Ouais.
Non. Et là, tu vas avoir une femme, c'est Alia, c'est ça?
Alia, oui.
C'est l'écrivain public, hein?
Oui.
Et elle est arabe?
Oui.
Toi, tu vas à la gitane chez une écrivain arabe?
Oui. Je lui ai demandé que, parce que j'ai payé 2 fois la même facture de l'eau, et je voudrais qu'on me rembourse pour la deuxième facture que j'ai payée, parce qu'il ne faut pas que je paye 2 fois la même facture. Parce que je croyais que c'était d'en haut, et j'ai payé les 2 factures d'en haut, au lieu de payer une d'en bas et l'autre d'en haut. Je me suis trompée.
Et alors, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi?
Elle va téléphoner, elle va demander si on peut me rembourser.
Voilà. Toi, tu sais pas faire ça toute seule?
Mais non, mais je sais pas bien m'expliquer.
Oui.
Tu les as appelés?
Oui, parce que je l'ai eu hier. Je suis Madame Guetta, expert en langue arabe à Perpignan. Je l'ai appelée pour un problème de Madame Rodriguez Christelle. Je vais vous donner son numéro. Oui, merci. J'ai fait des recherches.
Comment on va faire alors s'il encaisse la pension? Tout ce qu'on fait?
Eh ben, ça, c'est à toi de voir. Parce que si c'est un problème de couple, moi, je peux pas, je règle pas les histoires de couple.
Non, je sais, mais,
Mais tu pourras lui dire à ce moment-là que, il perçoit une pension et qu'il t'aide pas financièrement, pour ses enfants. Voilà.
Merci.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Némaros Tache, le 16.
Dis donc, c'est un va-et-vient incroyable hein, chez vous, Alia. Ouais. Chez toi, ouais. Alia.
Oui, oui, oui.
Moi, je suis passée devant ta boutique.
On est au 14 rue Fontaine-Neuve.
14 rue Fontaine-Neuve. Et il y a cette espèce d'écriture incroyable, un petit encrier comme ça. Oui. Et il y a marqué écrivain public. Oui. Waouh. En tout cas, je pensais à Cyrano. Je me demandais si tu écrivais des lettres d'amour.
Non, justement.
Parce qu'en dessous, il y a marqué.
Conseillère en formalité administrative, comme tu as pu le constater le temps où tu es restée ici. Les gens reçoivent des courriers administratifs de la CAF, de la caisse de retraite, des ACEDIC, de la NPF, enfin, tous les organismes administratifs. Ils m'amènent leur courrier. Alors, je lis, je leur explique ce qu'il faut, s'ils demandent des justificatifs ou s'il y a des imprimés à compléter.
Il y a beaucoup de gens ici dans le quartier qui savent pas lire ou qui savent pas écrire.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens illettrés. Bon, moi, la plupart de mes clients sont des personnes âgées. 60 ans et plus, donc ils n'ont jamais été à l'école. On dit, bon, mais je vais voir Alia. Alia, elle a l'habitude de tout ça. Pour moi, bon, maintenant, c'est de la routine. Hein. Ah, derrière la porte. Merci. Je crois que c'était Canal+, un jour. Je sortais de mon bureau, ils m'ont filmé. Mais j'ai dit que c'était un quartier qui était trop ghettoisé. Je sais pas si c'est le bon terme. C'est vrai que c'est un quartier où des rémistes, de demandeurs d'emploi, de retraités. C'est un quartier vraiment, vraiment pauvre, hein. Il y a énormément de pertes d'activités manuelles et traditionnelles parce que ici, dans ce local que j'occupe depuis le 1er novembre 89, il y avait une mercerie, bonnetterie. Je sais qu'au début, quand j'ai commencé, il y avait un monsieur, je crois que c'était un monsieur d'origine gitane, un coutelier. Il y avait un ou deux cordonniers et tous ces métiers manuels se perdent.
Qu'est-ce qui les remplace?
Les grandes surfaces. En surface, la droguerie, pareil, il y avait la droguerie d'Anneau qui existait depuis 58. Bon, lui a pris sa retraite et il a laissé son fils, sa belle-fille. Bon, du fait qu'il y ait ces grandes surfaces, les petits commerces meurent. On avait l'usine de... Bon, il existe actuellement que l'usine, c'est moi, la chocolaterie, mais il y avait plusieurs usines, il y avait des usines à bois, il y avait l'usine Saint-Mamé, la usine de confiture qui était connue, je crois, mondialement. Et toutes ces grosses boîtes ont cessé leur activité, donc qui dit pas d'industrie, il dit du chômage. Il y a beaucoup d'activités de secteur agricole, mais ce ne sont que des périodes saisonnières. La pauvreté des gens, là, tout à l'heure, t'as vu la dame, elle a reçu... 500 et quelques euros d'eau. Bon, avec sa petite retraite à elle et la petite retraite de son mari, elle venait me demander comment elle pouvait faire. Alors, je l'ai envoyée vers un service social pour avoir une aide financière. Pour réconcilier tout le monde, il faudrait que ce quartier redevienne comme il était, un quartier vivant. Parce que là, bon, malgré qu'il y ait du monde dans la rue, on sent que c'est un quartier qui est mort.
No regañe compañera, que tiene la marea, que me encuentra con mi primo y de juerga me lía. Hace tiempo no lo vi. Que a gustito estoy, que el pañuelito que tengo me lo quito y te lo doy. La cara del día, me da la cara del día, con mi primo de mi alma que el Señor me lo bendiga.
La mitad es la base.
La base es la base.
Là-bas, si j'y suis à Perpignan, dans ces quartiers où ont eu lieu ces drames, ces deux drames terribles, les habitants sont déçus par l'image qui a été donnée de leur quartier, d'eux-mêmes, mais ils en profitent aussi s'ils trouvent des micros et des oreilles favorables, et des caméras aussi d'ailleurs, pour dire ce qu'ils vivent. Il faut simplement prendre un peu de temps. Et c'est ce qu'on va faire encore quelques minutes avec Pitou, Monsieur Pitou, le patriarche.
Monsieur Pitou. Pitou, c'est pas votre vrai nom, hein?
Non, un surnom. Le vrai nom, c'est Carbon.
C'est une famille qui vient d'où? De
France. De France. Mais enfin, il y a plus de 1000 ans que nous sommes partis de l'Inde, du Nord-Ouest. Depuis, en 1450, que nous sommes dans le département de Pérou. Et notre peuple, le peuple gitan, il s'est converti en 53, de la Pentecôte, au moment de la Pentecôte. Et là, l'Évangile et moi, en 63, je me suis converti.
Moi, j'ai écouté la messe hier et c'est incroyablement musical, ça chante tout le temps. Et en même temps, il y a des messages assez forts qui passent. Hier, j'entendais, on parlait à la fois de la drogue, on parlait aussi des affaires qui se sont passées là.
On avertit notre peuple de ne plus se droguer, parce que c'est un fléau. C'est ça, mademoiselle. Les gitans, n'ayant pas de travail, ils ont le temps de perdre le temps. Bonsoir. C'est tout ce qu'on voyez là-bas. C'est la ruine de foyer.
Ça a ruiné votre foyer?
Malheureusement, oui. Un de mes enfants se droguait.
Vous avez combien d'enfants?
J'en ai eu 5, mais malheureusement, j'en ai 2 qui sont décédés.
Pitou, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, l'équilibre est fragile, ici à Saint-Jacques, que le quartier est vraiment vous fragilisé?
C'est faux. Le média a menti. Et j'accuse le média. Comme a fait...
J'accuse de Dreyfus?
Oui, oui. Je les accuse. Parce que c'est eux qui ont mis la pagaille. Qui s'occupent de leur propre affaire. Vous leur dites ça. Qui s'occupent de leur maison parce qu'ils ne sont pas patrons. C'est leur femme qui porte les pantalons. Les médias. Qu'est-ce que c'est ça? Vous nous accusez de deuxième meurtre. C'est ça que ça a déclenché la guerre. Parce que le premier meurtre, il n'y avait rien. On vivait en paix avec les Arabes. On nous accusait que le maire nous achetait des télévisions, que le maire nous achetait des Vespa, que le maire nous achetait des colis de la Noël. Jamais il nous a donné un centime. Et nous acceptons rien de personne. Louise, dis-lui qu'il se taise, ton fils. On se supporte. Maintenant-moi. À mon âge, je le dis tranquille. Oh là là, viens.
On se supporte, qui dit M. Pitou. Et c'est vrai que ça dure quand même depuis un certain temps. Tantôt, les gitans disent qu'ils sont là depuis 1450. De temps en temps, c'est 3 siècles. De temps en temps, les arabo-maghrébins disent on est là depuis 50 ans. Mais on leur dit, mais non, il y avait des arabes là il y a 1000 ans. À ce jeu de l'antériorité, on n'en finit pas, évidemment. C'est, l'antériorité n'est pas une légitimité, ne peut pas fonder une légitimité. Alors, il y a aussi cette histoire qui a beaucoup agacé les habitants de Perpignan, du centre de Perpignan, c'est l'histoire du clientélisme, alors là qui a l'air bien réel, mais le favoritisme d'une communauté par rapport à l'autre qui serait plus favorisée avec des dons, etc., des cadeaux. Alors je crois que le clientélisme a été très critiqué effectivement comme manière de gérer les problèmes et la ville. Ça a l'air d'être une vieille histoire, mais bien évidemment qu'il s'agit d'une compétition, d'une concurrence entre pauvres, ce qui est évidemment c'est pas la solution, c'est ni la solution ni le regard qu'on peut porter sur cette histoire. Et puis il y a aussi les clichés dans lesquels chacun est enfermé et s'enferme aussi. Le cliché des gitans, la musique, etc. Écoutez cette jeune femme qui s'appelle Alicia.
Toi, t'as fini tes études?
J'ai travaillé. Là, pour le moment, je suis chez un emploi. J'ai fait de la céramique et ensuite de l'entretien.
T'as quel âge, hein?
26 ans. J'ai été au collège, j'ai arrêté très jeune, mais je me suis toujours intéressée. Je vous le dis, mais les meilleurs amis que j'ai eus, c'était des filles, hein, maghrébines. Hein. Avec qui j'ai toujours des contacts.
Pourquoi des filles?
Parce que je sais pas trop garçon, je préfère rester avec les filles. Enfin, vous voyez comment c'est. Papa voulait pas trop qu'on fréquente les garçons.
T'épouserais un maghrébin, toi, ou pas?
Comment?
T'épouserais un maghrébin ou pas?
Je pense pas. Parce qu'on préfère rester avec... C'est comme un maghrébin. Demandez à un maghrébin s'il épouserait un gitan. La réponse aussi est non. Parce qu'on a nos cultures, même si elles se ressemblent beaucoup. Mais on préfère rester avec ceux qui sont comme nous. On se comprend davantage. Après, les gitans sont souvent, ils sont chrétiens évangéliques. Et les maghrébins, ils sont musulmans. Déjà, la religion, il fait aussi beaucoup. Après, eux, ils mangent pas de porc, nous, on en mange. Mais même, il y a, je sais pas, il y a une différence. Les Maghrébins, c'est pareil. Moi, tous les amis que j'ai eus m'ont dit pareil. Ils m'ont dit qu'elles préféraient prendre le français que pas le gitan. Mais même s'il n'y a pas de racisme entre nous, hein, y a pas... Non, parce qu'on est les peuples qui se ressemblent le plus. Ben, par exemple, pour les mariages, on exige la virginité de la fille. Enfin, soi-disant respect pour les personnes âgées. C'est toujours l'homme qui a toujours l'autorité sur la femme, même si maintenant ça a évolué, grâce à Dieu. Enfin, comme ça.
Bon, il va y avoir la fête de la musique quand même alors ce soir.
Oui, mais... On préfère là, comment ça passe? Les parents, ils préfèrent dire à leurs enfants, évitez d'y aller si vous pouvez, rester dans le coin, si jamais. Même si je sais que la plupart veulent que les choses se calment, il y en a toujours quelques-uns qui seront là à essayer de chercher querelles ou des disputes. Dans la salle gitane, dans la race de gitane, c'est des trucs qui. Bon. Ça, c'était il y a quelques temps en arrière. Peut-être que maintenant, ça s'est calmé. Le plus que j'ai, moi, c'est que je peux aller où je veux, c'est parce que justement, je ne fais pas gitane. Par contre, ceux qui sont mat de peau et compagnie, pour eux, c'est un peu plus dur.
Tu ne fais pas gitane, ça veut dire?
Je suis française. Hein.
Voilà. En plus, tu t'es teint les cheveux en blond.
Comme j'ai été éduquée au milieu de français et tout, j'ai même un langage aussi plus. Parce que les gitans, ils parlent avec un accent. Ah. Ils parlent comme ça. Ils ne savent pas trop les mots. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, madame? Il y en a qui parlent comme ça. Alors, c'est mal vu.
Je sais pas si c'est ça.
Non, moi, je suis gitane et je le reste, hein. Ça, pas de problème là-dessus. Puis, je suis française d'origine gitane, voilà, on va dire comme ça.
Il y a vachement de discrimination à l'égard des gitans, tu penses, de la part des Français?
Moi, je trouve que oui. Oui, je peux vous dire un exemple, si vous voulez. Je rentre à Yves-Rocher avec une copine et je demande une épilation pour les sourcils. Et celle qui faisait les sourcils, elle me fait, attendez, je vais demander, elle se retourne, elle voit qu'on est gitane, elle a reconnu par rapport à ma copine, sûrement par rapport aussi à moi. Ah non, non, c'est complet. Alors que la secrétaire, enfin la jeune fille, la stagiaire, venait de dire que oui, il y avait de la place. Ou alors qu'avant d'entrer dans un magasin, vous entendez deux petits coups sur le coup de micro. Je ne sais pas, par rapport à ma sœur, elle a travaillé dans un magasin d'habillement. Et elle me disait que quand il y avait des gitans qui rentraient, des personnes qui pensaient pouvoir voler. Et ils tapaient deux coups sur le micro et ça voulait dire « surveillez-les ». Et à chaque fois qu'on rentre...
Voilà, ça c'est l'ambiance à Perpignan, vu par Alicia. Ces drames ont produit des tenants, c'est la création d'un collectif, un collectif qui s'est intitulé Résistance et qui a été créé au lendemain du deuxième meurtre, le 30 mai, pour, disent ces jeunes, résister à l'injustice à Perpignan.
C'est l'étincelle qui a fait exploser la bombe sociale, tout simplement. On veut que Français d'origine musulmane ou d'origine maghrébine ou un Français d'origine gitane ou un Français d'origine catalane, ils aient les mêmes droits. Ils se lèvent le matin pour aller travailler comme tout le monde.
Et là, ils n'ont pas les mêmes droits aujourd'hui?
Mais bien sûr que non, tout le monde le sait. Si vous voulez, c'est un problème qui date depuis longtemps. Mais je veux dire, la communauté française d'origine catalane, ils ont peur de lever ce fardeau, en fait.
Je vous avoue, je comprends pas très bien ce qui se passe dans le quartier en ce moment. Je trouve que c'est pas facile. À la fois, il y a des tensions, il y a de la colère. Arrête quand même. Tu sais qu'hier, on s'est pris quand même des oranges par des jeunes dans les rues à côté, parce que les journalistes, on se fait engueuler, nous, les journalistes.
C'est normal. Le travail que vous faites, vous, les journalistes, vous faites votre travail. Le travail, c'est vous, c'est le mensonge. C'est ce qui vous nourrit. Vous arrivez déjà, vous êtes une intrus ici à Saint-Jean. Voilà, c'est rare qu'on voit un journaliste. Et depuis qu'il y a des meurtres, on voit que ça.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu montrer d'autre sur le quartier pour comprendre ce qui se passe?
Ce que vous voyez, il fallait montrer ce que vous voyez, ce qu'on vous montre, ce que vous savez pas, est-ce que les gens qui vivent ici savent? Moi?
Ouais.
Je te montre ce qu'il faudrait voir.
Et qu'est-ce qu'il faut que je vois, quoi?
Il faudrait voir qu'en fait, tu vas dans une boîte intérim, t'as que des noms de maghrébins. Tu vois ce qu'il veut dire? Ils ont jamais de travail. Après, quand on parle de travail, ils te disent, ils veulent pas travailler. Mais comment tu veux qu'ils travaillent ici, là où ils pointent et on les refuse? C'est pas normal. Faut être fou. Comment c'est que je veux dire? Après, on dit, ouais, ils habitent dans un quartier, dans un ghetto. Mais quand ils vont prendre un appartement, on les refuse tous les appartements. Du moins qu'on voit Ben Ali ou Ben Amou, comment je veux dire, Ben Amou encore ça va, c'est bon, bref, on le refuse de s'intégrer, mais par contre on aimerait bien les désintégrer. Comment je veux dire, c'est ça qu'ils cherchent à faire. Vous allez me pousser, je vais devenir fou. C'est comme ça que ça se passe. Quand il y a un problème, la communauté gitane, franco-gitane, eh ben c'est ça, ils s'entraident, la solidarité, ce qui est bien chez eux. Bon bref, lui ce jour-là il a pas eu de chance. Pour son poste de voiture, il s'est fait tuer. Mais après c'est pas question de raciste, parce qu'on vit avec eux depuis une cinquantaine d'années, on vit ensemble. Il n'y a pas de racisme, je vois pas. Le racisme, dans le moment, ça devrait pas exister, on devrait plus en parler.
Il n'y a rien du tout. Si vous voulez canaliser, ils sortent des faux problèmes ou des faux débats. Exemple, j'en passe, comme le voile, ça c'est des faux débats. Des faux problèmes pour canaliser la haine sur un problème qui n'existait pas du tout, quoi, je veux dire.
Ce qui est dangereux, c'est qu'on est en train de placer la citoyenneté, non plus sur un plan juridique, égalitaire, etc., ouais, mais sur un plan d'ancienneté. Voilà. C'est-à-dire que plus longtemps j'étais là, plus j'ai de droits sur toi. Voilà. Parce que, et ça, c'est extrêmement dangereux, alors que les valeurs qui doivent nous unir. Si tu veux, il y a un discours social qui a tendance justement à communautariser ou à ethniciser les problèmes sociaux. C'est un meurtre, ce sont deux citoyens français qui se sont tués. Alors dire qu'il n'y a pas de logique communautaire, ce serait nier une partie de la réalité. C'est vrai, je veux dire, il y a eu des logiques communautaires qui étaient engagées parce que c'était un gitan qui a piqué le poste, l'autre il a réagi sur un gitan, donc d'autres gitans sont arrivés. Il y a une solidarité communautaire qui s'est installée, c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Ça aurait pu rester dans un stade de fait divers. Pourquoi ça n'allait pas rester? Pourquoi finalement le meurtre d'un ou deux citoyens français a tué toute une ville? Pourquoi ça a soulevé toute une ville de cette manière-là? Et c'est là où ça interroge les responsabilités politiques, sociales, etc. C'est d'une manière de gestion et de traitement de cette jeunesse. Même nous, je veux dire, n'importe qui tombe facilement dans ce travers-là, à vouloir des fois à communautariser ou à religioser les problèmes, parce que ça donne des grilles de lecture simples, finalement, si tu veux. Je veux dire, c'est à un moment donné, tu arrives à... Tu te sens tellement victime d'une injustice, mais tu te dis, mais... Si tu veux, c'est toute la violence symbolique qui est accumulée depuis toute une génération. Ils ont grandi dans ce climat-là de suspicion, on veut les intégrer. On leur dit qu'il faut vous intégrer, faites des efforts. Ils font les efforts nécessaires, mais jamais on les intègre suffisamment.
Il y a un problème socio-politique et économique. Vous savez, quand l'un ne va pas sans l'autre, vous savez.
Merci à tous. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Merci à Jean-Louis Olive, maître de conférence. Merci à Georges Bartoli, Blanco, Alicia et Pitou. Merci. Merci à Alia, écrivain public, Aziz, patron du Jamal Al-Sana, au collectif Résistance, qu'on vient d'entendre, et à tous les habitants du quartier Saint-Jacques de Perpignan. À lire le livre des Gitans de Perpignan sous la direction de Bernard Leblon aux éditions L'Harmattan. Et puis à la mémoire de notre ami François-Xavier Verchave. Une célébration aura lieu à l'église Sainte-Thérèse de Villeurbanne, rue du 4 août à Villeurbanne, le samedi 2 juillet à 9h30. Une première veillée de partage et de mémoire aura lieu au relais Jeune Chapaine de Impasse Métral à Villeurbanne, métro République, le même jour à 18h. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse J'y suis. Technique aujourd'hui Sophie Moreno et Patrick Henry. L'équipe de La Basse J'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Le, Pascal Yellow et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 0156 40 37 37, 0156 40 37 37. On attend vos messages demain pour la dernière de la saison. Le mail de La Basse J'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. On se retrouve donc demain à 17h pour La Basse J'y suis, dernière de la saison. Et vous retrouvez maintenant Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut, à demain.